Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour votre carnet de région, votre magazine proposé par les radios associatives de votre région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Au sommaire de ce carnet de région, le conseiller régional Kamel Chibli, qui a rencontré des jeunes lozériens la semaine dernière, c'était à l'antenne de 48 FM, afin de créer une nouvelle politique régionale et un conseil régional des jeunes. Nous écouterons l'élu, la maison de la justice et du droit de l'ODEV, la première créée dans l'Hérault, c'était en 2010. A été renouvelée par une convention pour les trois prochaines années. La greffière Anne Boyer, qui reçoit les administrés dans ce lieu, nous présentera cette maison et les services proposés, un sujet proposé par Radio Lodev. Direction Alès avec la 36e édition du Festival Cinéma d'Alès Itinérance, avec le délégué général d'Itinérance qui présentera à Radio Grille Ouverte le Ciné Piscine et le Radio Cinéma, et auprès de Radio Languedoc à Seine-et-Barre de l'association Polynis expliquera comment sauver l'abeille locale. Bon carnet de région à vous. Depuis novembre dernier, Kamel Chibli, le vice-président de la région Occitanie en charge de la politique jeunesse, parcourt les différents départements de la région afin de rencontrer les associations jeunesse et les jeunes. L'objectif est de créer une nouvelle politique régionale et un conseil régional des jeunes. Il faut dire que la jeunesse est importante en Occitanie, avec près d'un tiers de la population de la région qui est âgée de moins de 25 ans, dont 226 000 lycéens, 36 000 apprentis et 247 000 étudiants. Et Kamel Chibli est venu en Lozère la semaine dernière pour rencontrer des jeunes lozériens à l'antenne de 48 FM, car d'après Kamel Chibli, on a eu trop tendance ces dernières années à faire pour les jeunes, mais pas avec les jeunes. Kamel Chibli.
Une jeunesse qui a soif aussi d'être dans l'action, et à un moment donné qui a aussi l'envie de pouvoir être acteur de sa vie. En tout cas, c'est la démarche qui est la nôtre et qui est la mienne depuis quelques mois avec mes collègues élus et la présidente de région qui a acté ce principe-là. C'est un peu audacieux quand même, je vous le dis franchement. Prendre son baluchon et dire on va aller faire le tour des 13 départements pour aller rencontrer les jeunes, c'est quand même pas forcément quelque chose qui se faisait de façon habituelle, puisque la région, comme vous le savez, elle s'est multipliée par deux. Donc c'est une démarche volontariste. Mais en même temps, à un moment donné, si on ne se donne pas les moyens d'aller rencontrer ces jeunes-là pour prendre la température, pour savoir un peu comment ils ressentent les choses, comment ils se sentent aujourd'hui dans la situation en tant que jeune de Lozère d'ailleurs, ou de Mende, ou habitant du territoire, et aussi en tant que jeune de la région Occitanie. Le tout, c'est de se voir et de construire derrière ce qu'on est capable de faire ensemble. Et ça, c'est une démarche que l'on veut, et que l'on veut totalement différente de ce qui existe. Et là-dessus, c'est vrai que quand je dis que c'est une période d'assaut, on a commencé en novembre, c'est 17 réunions, avec des jeunes totalement différents. On était dans des foyers jeunes travailleurs à Toulouse, on a rencontré des jeunes dans les quartiers de la Paillade, on était à Alès dans le Gard. Voilà, on a fait à peu près, on va dire, on a rencontré à peu près ce que représente notre jeunesse dans le territoire d'Occitanie. Et c'est vrai qu'il ressort des choses parfois difficiles, c'est une évidence, de difficultés que peuvent connaître nos jeunes, mais parfois des choses super intéressantes qui méritent en tout cas d'être entendues et d'être suivies des faits. En tout cas, c'est la volonté, c'est la démarche que j'ai voulu entreprendre depuis quelques mois sur ce grand, vaste territoire d'Occitanie, qui, je rappelle, est plus vaste que plus de 10 pays d'Europe. Donc c'est dire que c'est un grand territoire. L'objectif, in fine, c'est d'avoir un véritable conseil régional de jeunes qui soit totalement différent de ce qu'on a pu connaître. Quelque chose qui prenne sur une tranche d'âge de 15 à 30 ans ou de 16 à 29 ans, on pourra discuter de la tranche d'âge, mais grosso modo, c'est celle-là. Et pour le coup, pour arriver à ça, il faut rencontrer les jeunes. Parce qu'on a trop eu tendance pendant des années de faire pour les jeunes, mais pas avec les jeunes. Et ça, c'est une difficulté qu'on peut connaître. Nous, on a l'impression à chaque fois de pouvoir parler à la place des jeunes, c'est une erreur monumentale. Mais l'objectif vraiment, c'est de les mobiliser, d'aussi d'avoir un contact avec eux et de leur laisser la possibilité de dire comment ils souhaitent participer activement au devenir de la région, mais aussi à leur devenir à eux tout court.
C'était un sujet de Ludovic Terol de 48 FM.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croustillon.
Ce vendredi 9 mars, à l'ODEV a eu lieu le renouvellement pour trois prochaines années de la convention permettant à la Maison de la Justice et du Droit d'être implantée à l'ODEV dans les locaux de la mairie. Cette Maison de la Justice et du Droit est la première à avoir vu le jour dans l'Hérault. Il y en a actuellement quatre, bientôt une cinquième qui va être créée prochainement à Latte. Pour nous présenter cette Maison de la Justice et du Droit à l'ODEV, on écoute Anne Boyer, c'est la greffière qui tient des permanences dans cette MJD.
La MJD de l'ODEV, qui dit Maison de Justice et du Droit, est donc rattachée au tribunal de grande instance de Montpellier. Je suis greffière auprès du tribunal de grande instance de Montpellier, mise à la disposition de la MJD. Donc, je chapeaute toute cette maison de la justice avec, bien évidemment, mutualisée avec la mairie de l'ODEV où tout se passe très bien, de très très bonnes relations professionnelles. Nous avons un agent d'accueil, l'agent d'accueil de la mairie qui travaille sur la mairie, sur le cabinet du maire et qui travaille avec moi sur la maison de la justice et du droit. Mon travail consiste tous les jours à déjà accueillir le public, les écouter, prendre le temps d'écouter, c'est très important la parole, et les orienter en fonction de leur thématique. Alors comme je suis greffière, j'ai un avantage, je connais toutes les procédures puisque j'ai fait les cours d'appel, tribunal d'instance, tribunaux de grande instance, conseil de prud'homme, donc je connais un gros éventail de procédures et je peux renseigner spontanément la personne. Par contre, si c'est une question qui concerne l'un de mes intervenants, avec qui je travaille très bien, il faut le dire, cette maison de la justice, elle ne serait rien aussi sans mes intervenants, car ils sont à mon écoute. Quand j'ai une problématique à soulever, j'appelle ou le conciliateur ou le défenseur des droits, une très très bonne relation professionnelle, et eux aussi peuvent répondre et me prendre des dossiers un petit peu en avance, de façon que la personne n'attende pas trop longtemps son renseignement. Car moi j'estime que la maison de la justice, il faut que la personne, elle vienne, elle reparte de mon bureau et qu'elle puisse avoir le renseignement. Je fais également des permanences tous les jeudis au sein de cette maison de la justice où je reçois beaucoup de personnes, mais je me mets également à la disposition du justiciable qui travaille et donc je les reçois aussi toute la semaine puisque je suis là du lundi au vendredi et donc au service public.
Vous avez parlé des intervenants, quels sont donc tous les intervenants qui interviennent ?
Je vais vous les citer, nous avons le défenseur des droits qui fait sa permanence tous les lundis, nous avons le conciliateur de justice qui fait sa permanence tous les vendredis, nous avons les avocats qui viennent le premier mercredi de chaque mois. Nous avons une juriste de l'ADIAF, alors elle a deux casquettes, elle est juriste, elle peut renseigner sur le plan juridique, mais également sur l'ADIAF. L'ADIAF est l'association d'aide aux victimes qui permet justement de réparer quand une personne a été victime d'une infraction au niveau de la population ou une infraction routière. Et ensuite, elle vient deux fois tous les vendredis, tous les 15 jours. Moi-même, je fais des permanences tous les jeudis. Nous avons également l'association de la protection de l'enfance, la PEA, qui vient beaucoup dans nos bureaux, la protection de la jeunesse judiciaire, la PJJ. Nous avons le SPIP. Le SPIP, c'est le conseiller d'insertion de probation qui s'occupe des affaires des personnes ou qui sortent de prison, qui ont un contrôle judiciaire, bracelet électronique. Et nous avons les notaires qui font un travail énorme sur la ville de l'ODEV, puisqu'ils me permettent d'avoir les personnes sur la maison de la justice, mais également qui reçoivent les personnes directement à leur cabinet gratuitement, au nom de la maison de la justice, et qui peuvent avancer les dates de rendez-vous quand les personnes sont pressées, notamment pour des successions ou autre chose.
Donc on rappelle bien sûr que vous êtes au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, maintenant vous mutualisez vos locaux avec la mairie de l'ODEV.
Tout à fait, nous sommes mutualisés avec la mairie de l'ODEV.
C'était un sujet de Damien Sintès de Radio l'ODEV. Dans quelques jours, le vendredi 23 mars prochain, s'ouvrira la 36e édition du Festival Cinéma d'Alès Itinérance, l'une des manifestations phares du 7e art en région Occitanie. Au-delà des nombreux temps forts du festival, que sont les hommages, rétrospectives et avant-premières, sans oublier la très courue compétition de courts-métrages, attardons-nous un instant sur deux événements singuliers, sportifs et interactifs, le ciné-piscine et le vélo-cinéma. Explication détaillée par le délégué général d'Itinérance, Antoine Leclerc.
Oui, vélo-cinéma et ciné-piscine avec le programme Splash. C'est une initiative qui est le fruit de plein de choses auxquelles on pensait depuis longtemps. C'est celle d'abord d'investir l'espace public, de sortir des murs et de répondre à une problématique qui est celui qu'on est par nature dans des salles de cinéma fermées et au mois de mars où on ne peut pas encore faire de plein air, en tout cas pour des longs métrages. Et donc on s'est dit en même temps, voilà, comment répondre à ce souci de présence dans l'espace public pour aussi aller toucher de nouveaux spectateurs, les intriguer, les sensibiliser. Voilà, ça nous semblait important et on a eu l'opportunité de faire venir Vélo Cinéma, qui est une initiative vraiment intéressante qui conjugue cinéma, espace public et développement durable, puisque ce sont les spectateurs qui sont nécessaires pour que la projection ait lieu et qui doivent s'impliquer et suer du mollet, disons-le, en pédalant tout simplement sur quelques, je ne sais plus, c'est une demi-douzaine ou neuf, je ne sais plus, vélos qui alimentent la projection avec des courts-métrages. D'abord pour éviter, pour qu'il puisse y avoir des relais qui se fassent et que des gens puissent venir aussi goûter à l'expérience entre deux séances.
Et vous-même, Antoine Leclerc, vous avez pratiqué vélo-cinéma ?
Je n'ai pas pratiqué vélo-cinéma. Par contre, beaucoup pratiqué la natation, ce qui m'emmène à l'autre sujet particulier cette année, c'est avec l'aglo. On s'est dit aussi, voilà, on a eu cette idée un peu folle. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, de quelques années, notre aîné, le pratique depuis longtemps et c'est très excitant d'investir des lieux qui ne sont pas au départ des lieux de cinéma et de créer de l'événement par le fait même d'aller dans le centre nautique de l'aglo d'Alès, dans le petit bassin. On va projeter un programme de court-métrage là aussi en lien avec l'eau et les piscines. Où, je vais rien en dire. Il y aura de l'animation, une fiction. Il y a plein de petites choses très très chouette, et puis de le partager dans un contexte un peu particulier, puisque le maillot sera là, obligatoire. La projection durera 45 minutes, précise que l'eau sera chauffée un peu plus que d'habitude. Vélo cinéma et le ciné-piscine auquel on se frotte cette année, qu'on initie cette année. On est incapable de vous dire aujourd'hui si ça perdurera, mais on verra si on sent qu'il y a une appétence, un vrai intérêt aussi, au-delà du côté événementiel. Ça méritera peut-être qu'on continue et qu'on persévère dans cette voie.
Et outre ces deux événements éminemment sympathiques que le festival rendra par la projection de 24 de ses films, un bel hommage au cinéaste Alain Cavalier qui, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, fait preuve dans son œuvre d'une audace et d'une liberté rare, ainsi qu'à la documentariste Julie Bertuccelli, pour ne citer que deux noms parmi la soixantaine de professionnels présents entre le 23 mars et le 2 avril à Alès à l'occasion du 36e festival Itinérance, de quoi se faire une véritable odyssée cinématographique. C'était un sujet présenté par Yves Defago pour Radio Grille Ouverte.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Les abeilles locales menacées, la biodiversité générale est en danger. L'Associació Polinis treballa per protegir les abeilles. Amb nosaltres, lo Aceno e Bar. De Polinis que nos farà s'aventar mai d'aquella situació. Adicias Aceno. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Alors, sont 86 eurodéputés consignés pour introduire l'amendement demandant la protection juridique des abeilles locales en Europe. Que vol dire tout à coup?
Ah, alors... Donc, il y a une problématique d'effondrement des colonies des abeilles un peu partout dans le monde. Elle est principalement lieu de manière concomitante à l'arrivée des pesticides qui s'appellent des néonicotinoïdes dans les années 90.
Mmh.
Et pour faire face à la mortalité, les apiculteurs professionnels ont dû acheter des abeilles un peu partout, qu'elles ont ramenées sur leur territoire. Et ce faisant, quand vous avez des abeilles qui ne sont pas adaptées, elles se mélangent avec celles qui sont présentes. Et ça fait que vous avez des abeilles qui ne connaissent pas la floraison, qui ne connaissent pas leur milieu, et qui donc, elles-mêmes, meurent. Et donc, nous, en tant que citoyens, on a pour intérêt à se préserver des abeilles qui sont adaptées, parce qu'elles font partie de la biodiversité. Et donc, nous préconisons le fait de garder des abeilles locales, pour ceux qui veulent faire du miel local, parce que les abeilles locales sont plus adaptées.
Alors, dans le cadre juridique, c'est quoi que Polinis demande?
Ah, alors nous, ce qu'on a demandé, vu qu'il y avait plein d'associations en France et en Europe qui travaillaient sur les préservations d'espèces locales, elles voyaient leur travail sur le terrain mis en danger par le fait que n'importe quel apiculteur qui se met à l'apiculture, par exemple, peut venir déposer des abeilles en plein milieu de cet espace protégé et en fait mettre en l'air le travail de plusieurs dizaines d'années d'autres apiculteurs passionnés. Donc nous, ce qu'on a demandé, c'est que d'abord, un, les espèces locales soient reconnues comme un intérêt pour les citoyens et pour la profession. Et deux, que ces espaces, sur lesquels ces associations qui travaillent pour la plupart du temps avec des scientifiques, soient protégés de manière juridique. Parce que ce qu'on a observé, c'est que, par exemple, en Suisse, il y avait 4 conservatoires, 2 qui étaient protégés par un arrêté cantonal et 2 qui n'étaient pas. Les 2 qui ont été protégés, le conservatoire fonctionne à merveille. Et les 2 qui n'étaient pas protégés sont mis en danger par un seul apiculteur. Un seul apiculteur qui ne connaît pas la problématique vient mettre par terre tout le travail des autres apiculteurs. Donc, ce que nous avons demandé, c'est la reconnaissance de l'importance des espèces locales d'abeilles partout en Europe et de la protection juridique du travail fait par ces conservatoires.
c'est même à Seine-et-Barre de l'association Pollinis. À Seine, est-ce que les apiculteurs, ils sont assez informés par rapport à l'importance de travailler avec les abeilles locales?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, l'apiculture et les apiculteurs sont sous pression. La problématique de l'apiculture, elle est multiple. C'est vrai que les abeilles subissent des agressions qui viennent d'un peu partout. En premier lieu, ça reste les pesticides, quand même, il faut le dire. Hein. Ça reste les pesticides. Ensuite, vous avez la monoculture. Ensuite, vous avez les parasites. Et ensuite, vous avez cette problématique d'introgression généralisée des abeilles. Et en fait, ils sont confrontés à une problématique des apiculteurs professionnels. Hein.
Oui.
En France, vous avez à peu près 60 000 apiculteurs. Il n'y a que 2 000 professionnels. Tout le reste, c'est l'apiculture amateur. D'accord? Ou semi-pro. Et eux, ils sont sous pression de produire du miel pour en vivre. Donc, ils sont confrontés à une urgence et ils font avec ce qu'ils ont. Et même si par devers, eux, ils savent qu'il faut travailler, enfin, qu'il est important de garder des espèces locales d'abeilles, ils font avec ce qu'ils ont.
Des ségures. Alcop Québé, à Sénat.
À très bientôt, merci beaucoup, au revoir.
Un plaisir. À le réveil.
Merci.
Per signare la petizione, i deputati europei www.polinis.org e anche per più interessanti per ne sapere il miel che sembra crumpare e le cause che sembra consumare. Le abeille menacate, la biodiversità è in danger.
Merci à tous. C'était à l'instant votre carnet de région proposé par les radios associatives de votre région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Merci également aux radios qui ont contribué à ce carnet de région avec leur sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau carnet. Même heure, même fréquence. Merci à vous et bonne journée.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.